à Washington.
Abdourahmane Dia, en direct de Washington pour cette édition de 17h30 temps universel. On est jeudi 8 mars 2018 au sommaire. Rex Tillerson poursuit sa tournée en Afrique. À Addis Abeba, le secrétaire d'État américain a évoqué les questions de sécurité, de développement, de corruption ainsi que les conflits. La CPI a rejeté l'appel de l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, condamné à 1 an de prison pour subornation de témoins. Le président américain Donald Trump promet de faire preuve de flexibilité avec les vrais amis des États-Unis dans l'imposition annoncée des taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium. En partie magazine, focus sur la Journée internationale de la femme.
On peut dire que les positions n'ont pas encore changé par rapport au code de la personne et de la famille.
Ne ratez pas également les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a rencontré ce jeudi à Addis Abeba le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki et les autorités éthiopiennes. La sécurité, le commerce, le développement, la corruption ainsi que les conflits sur le continent étaient au centre des débats. Le point avec Getachew Tedla à Addis Abeba.
Le secrétaire d'État Rex Tillerson a revu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamat Moussa Faki, la situation des conflits dans la sous-région de la Corne de l'Afrique et surtout la stratégie comment appuyer les missions de paix devant les exactions d'Al-Shabaab. S'agissant d'Éthiopie, au cours de sa conférence de presse à l'hôtel Sheraton, le secrétaire a souligné
« It is important that the country move on past.
Nous avons la conviction que le pays s'en sortira le plus tôt possible de l'état d'urgence. Nous reconnaissons cependant les mesures prises en libérant bon nombre de prisonniers politiques. C'est déjà un grand pas pour aller de l'avant. Nous espérons que le gouvernement ouvrira la porte à ses citoyens pour que ceux-ci puissent exprimer librement leurs idées sans contrainte. C'est ce que nous, de notre côté, appuyons toute initiative allant dans ce sens. Getachew Tedla, Addis Abeba pour la Voix d'Amérique.
Rex Tillerson doit ensuite se rendre à Djibouti, qui abrite une importante base militaire américaine. Idriss Afal a joint le premier ministre djiboutien Abdul Kader Kamel.
Écoutez, il y aura une discussion avec le chef de l'État, avec les affaires étrangères. Nous avons mené un certain nombre de discussions d'intérêts communs entre les États-Unis et la République Djibouti.
Intérêts communs, la lutte contre les Shabab somaliens,
la piraterie, le terrorisme et puis aussi le développement de la République de Djibouti par des investissements américains. Nous attendons à ce que les Américains aussi, de leur côté, fassent aussi un geste pour essayer aussi d'être présents dans l'économie de Djibouti.
Le premier ministre djiboutien Abdul Kader Kamel. Le collectif catholique à l'origine des marches anti-Kabila soutient l'appel à la grève générale de demain en mémoire aux victimes de la répression des récentes manifestations en République démocratique du Congo. Le CLC demande à la population congolaise d'observer cette consigne patriotique, selon le CLC. Donc, s'agit donc des termes du communiqué. Deux hommes ont été tués lors de cette troisième marche des catholiques. L'ex-chef de guerre et vice-président de RDC, Jean-Pierre Bemba, a perdu son procès en appel pour crime de guerre devant la CPI. La chambre d'appel a ordonné de nouvelles condamnations. Éric Manelakiza.
Les 5 juges de la chambre d'appel ont rejeté les 12 motifs d'appel de la défense de M. Bemba. Ils ont par la suite ordonné la révision en chambre de première instance des peines prononcées dans l'affaire de subornation de témoins en octobre 2016. Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable d'avoir corrompu 14 témoins qu'il avait présentés pour fausses preuves et sollicitation de faux témoignages. Il avait écopé 1 an de prison et de 300 000 euros d'amende. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, avait également fait appel et requis 5 ans de prison. Surnommé le Mobutu miniature, M. Bemba n'a pas non plus eu gain de cause dans un autre appel contre sa condamnation en juin 2016 à 18 ans de prison pour une vague de meurtres et de viols commis en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Il avait été reconnu coupable en vertu du principe de la responsabilité du commandant de sa milice, le MLC. La défense avait accusé les juges de manque d'impartialité pendant une audience publique en janvier.
Au Gabon, le ministre de l'Intérieur, Lambert Mata, s'est entretenu pour la première fois depuis la présidentielle de 2016 avec des proches du principal opposant Jean Ping. Cette réunion s'est tenue en vue des législatives prévues fin avril. Jean Ping conteste toujours le scrutin de 2016 et se considère toujours comme le président élu du Gabon. Le Gabon a adopté début janvier une nouvelle constitution. La MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, a déclaré prendre très au sérieux les accusations portées par un évêque sur des abus sexuels commis par des casques bleus dans le sud-est du pays. Les casques bleus ont abusé et ont laissé enceintes de nombreux jeunes à Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique, avait déclaré début mars Monseigneur Juan José Aguirre à la radio espagnole ABC. Près de 1500 déplacés musulmans se sont réfugiés dans l'enceinte du petit séminaire de l'évêché de Bangassou, protégé par des casques bleus gabonais et marocains notamment. En Côte d'Ivoire, le Rassemblement des Républicains du président Alassane Ouattara a annoncé que le projet de parti unifié pour diriger le parti le pays sera bientôt une réalité. Cependant, son grand allié au sein de la coalition présidentielle, le PDCI, exclut cette idée avant les prochaines élections de 2020. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ancien président Henri Konan Bédié a affirmé qu'il présenterait son propre candidat en 2020. Au Togo, la coalition des 14 partis de l'opposition était hier dans la capitale ghanéenne pour échanger avec le facilitateur du dialogue politique togolais. Au cours de cette rencontre, le président ghanéen a suggéré à la coalition de suspendre ses manifestations prévues du 13 au 17 mars. Le point avec la correspondante de VOA Afrique, Lomé Kailawson.
La coalition des 14 n'annule pas ses manifestations prévues pour la semaine prochaine, mais elle les reporte dans la semaine du 19 mars. C'est ce qu'a indiqué la coordinatrice de la coalition, Brigitte Adjamago-Johnson, de retour d'Accra, où le groupe des 14 a rencontré le facilitateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Selon les propos de la coordinatrice, le président ghanéen les a suivis sur la poursuite du processus électoral par le gouvernement, ce qui serait contraire à l'esprit des engagements pris. On ne peut pas accepter une préparation unilatérale des élections, a-t-elle dit, rapportant les propos de Nana Akufo-Addo, qui a demandé un moratoire d'une semaine pour consulter la partie adverse. La coalition a relevé que la proposition du facilitateur est judicieuse, d'autant qu'aucune interdiction de manifestation ne leur est imposée. L'opposition dit avoir jugé utile de faire cette concession pour faciliter la tâche au président ghanéen et aider à trouver une solution pour la crise que traverse le pays. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump assouplit sa position sur les taxes sur l'importation d'acier et d'aluminium. Il promet de faire preuve de flexibilité avec ceux qu'il appelle les vrais amis des États-Unis. John Lindon.
Nous devons protéger et bâtir nos industries de l'acier et de l'aluminium tout en faisant preuve d'une grande flexibilité et de coopération avec ceux qui sont des vrais amis et nous traitent de manière équitable à la fois dans le commerce et la défense, a tweeté le président Trump ce matin. Une annonce qui sonne comme un assouplissement de sa position alors qu'il rencontre aujourd'hui les responsables du secteur. Le président républicain a annoncé il y a une semaine son intention d'imposer 25% de taxes sur les importations d'acier et 10% sur celles d'aluminium, ravivant le spectre d'une guerre commerciale entre les États-Unis et nombre de ses alliés comme le Canada, premier partenaire commercial et premier fournisseur d'acier des États-Unis. Face à la levée de boucliers dans le monde entier, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a fait savoir mercredi qu'il pourrait y avoir des dérogations pour certains pays. Cette semaine, le conseiller économique du président, opposé à cette nouvelle taxe, a démissionné.
Le gouvernement britannique va répondre de manière appropriée s'il s'avère qu'un État est impliqué dans l'empoisonnement d'un ex-agent double russe et de sa fille au Royaume-Uni. C'est l'avertissement lancé par la première ministre Theresa May. Cette tentative de meurtre qui attise donc les tensions entre Londres et Moscou. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Amber Rudd, a dénoncé une attaque sans foi ni loi et s'est engagé devant les députés britanniques à ce que tout soit fait pour que les responsables soient traduits en justice. En Espagne, les principaux partis indépendantistes de Catalogne prévoient d'organiser un nouveau référendum sur une future constitution de la République catalane. Ils proposent également la création en Belgique d'une structure de gouvernement parallèle présidée par le président destitué Carles Puigdemont, qui s'est exilé à Bruxelles après la déclaration d'indépendance avortée du 27 octobre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on retrouve Eric Manirakizar qui nous présente la Minute Éco.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a promis un dialogue constructif avec les multinationales qui s'inquiètent de la promulgation du nouveau code minier qui pourrait fortement taxer le cobalt. Lors d'une rencontre ayant duré 7 heures, le président Kabila et les 7 principaux opérateurs miniers ont convenu de traiter au cas par cas les problèmes suscités par la révision du code très libéral de 2002. Chaque année, un total de 10 milliards de dollars de cuivre et de cobalt est exporté de la RDC. La Sénégalaise des eaux, la SDE, vient d'annoncer le renforcement de l'alimentation en eau potable de Medina Gounas. Cette initiative fait suite à l'incendie survenu lors de l'édition 2017 du Daaka, ou retraite spirituelle de Medina Gounas, l'un des hauts lieux musulmans au Sénégal. Le sinistre avait été fortement aggravé par les difficultés d'approvisionnement en eau. Les travaux financés par la SDE ont coûté 200 millions de francs CFA. En Tunisie, la banque centrale, la BCT, se dit inquiète d'une situation économique marquée par des indicateurs effrayants et défend sa récente décision d'augmenter son taux directeur. Le taux d'inflation est resté longtemps entre 2 à 3% pour passer maintenant à plus de 7,1% selon le nouveau gouverneur de la BCT, Marwan El Abbassi.
Voilà, c'était plutôt Dili Diko qui nous présentait la Minute Éco. Et pour les sports, j'ai bel et bien Yacouba Wetraouba avec moi dans ce studio. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
Alors on connaît les différents groupes de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans.
Tout à fait Abdourahman, le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui à Rennes en France. Le Ghana et le Nigeria, représentants de l'Afrique, sont fixés sur leur sort. Logés dans le groupe A, les Black Princesses du Ghana seront confrontés au premier tour au pays hôte, la France. À la Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, dans le groupe B, on retrouve la Corée du Nord, tenante du titre, l'Angleterre, le Mexique et le Brésil. Le groupe C comprend les États-Unis, le Japon, le Paraguay et l'Espagne. Les Falconettes du Nigeria se retrouvent dans le groupe D avec Haïti, la Chine et l'Allemagne. La 9e édition du Mondial féminin des moins de 20 ans, on le rappelle, a lieu du 5 au 24 août prochain en France.
8e de finale aller de l'Europa League ce soir.
Sur le papier, Abdourahman, AC Milan Arsenal à San Siro reste l'affiche de ce soir. Le club londonien enchaîne cependant les déconvenus en Première Ligue. Quant à l'AC Milan, il se porte mieux depuis l'arrivée de l'entraîneur Gennaro Gattuso. L'Atlético Madrid fait face au Lokomotiv Moscou et le Borussia Dortmund affronte Salzbourg. Lyon, demi-finaliste la saison passée, se rend sur la pelouse du CSKA Moscou.
En Italie, Florence dit adieu à David Astori.
Florence a rendu hommage aujourd'hui, un dernier hommage à David Astori décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Des funérailles auxquelles ont assisté près de 10 000 personnes devant la basilique Santa Croce. Auprès de la famille et des proches d'Astori, il y avait Baresi, Totti, Van Basten, Buffon, Pjanic et N'Golan. Le capitaine de la Fiorentina sera inhumé près de Bergame, d'où il est originaire et où vivent ses parents.
Et on termine par la NBA, Toronto, qui est le premier qualifié pour les playoffs 2018.
Et oui, les Raptors de Toronto se sont rassurés après leur succès 121 à 119 après prolongation à Détroit. Avec 47 victoires en 64 matchs, ils sont au pire assurés de terminer à la 8e place de la conférence S. Même s'ils devaient perdre leurs 18 derniers matchs de la saison régulière. Abdourahman, un scénario hautement impossible.
D'accord, merci beaucoup en tout cas Yacouba Wetraogo. On reste donc pour nos prochaines éditions sportives, on reste avec vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe tout de suite au dossier du jour. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a entamé par Addis Abeba en Éthiopie sa tournée africaine. Il a rencontré ce jeudi le président de la commission de l'UA, Moussa Faki, qui a appelé à tourner la page sur les propos injurieux qu'aurait tenu le président Trump. On fait le point avec Dilly Diko.
Nous, d'après ce qu'on pensait, au vu des résultats sortis des urnes, on avait à peu près 54 sièges. Et puis là, on me dit que nous n'avons que 53 sièges parce que le Conseil constitutionnel a invalidé un certain nombre de bureaux, au total 28 sur le 469. Parce qu'il y avait beaucoup d'ordres de mission. Il a estimé que ces ordres de mission n'étaient pas légaux dans la mesure où ces gens-là étaient inscrits dans d'autres bureaux. Mais nous avons quand même la majorité absolue au sein de cette Assemblée. L'opposition aura 8 députés sur les 65. C'est la dernière instance qui est souveraine. C'est le Conseil constitutionnel qui valide les élections.
Mais il y avait aussi une partie de l'opposition.
Voilà, nous n'avons pas le bon élément. Veuillez nous en excuser. Nous y reviendrons certainement. On passe au...
Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, effectue sa première visite en Afrique avec pour escale le Tchad, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et le Nigeria. L'occasion de faire le point sur la politique africaine de l'administration Trump. Lutte contre le terrorisme, promotion de la paix, sécurité, bonne gouvernance, commerce, investissement. Quels sont les intérêts des États-Unis en Afrique ? Le nouveau locataire de la Maison Blanche va-t-il continuer la politique mise en place par ses prédécesseurs ? L'isolationnisme prôné par la Maison Blanche pourrait-il nuire aux relations entre les États-Unis et l'Afrique ? On en discute dans Washington Forum. Morgane Guiriec avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h universel sur VOA.
On passe au Burundi. Poursuite des efforts visant à faire la lumière sur le passé de l'indépendance en 62 jusqu'en l'année 2008, des agents sillonnent les 18 provinces du pays pour recueillir les témoignages. Certains habitants y trouvent un intérêt pour connaître la vérité et témoignent. D'autres pensent que cela n'est pas nécessaire. Reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza.
Au chef-lieu de la commune de la province de Bouvanza, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Bujumbura, des habitants arrivent discrètement pour faire leur déposition sur ce qui s'est passé dans les années 90, lorsque les mouvements rebelles affrontaient l'armée burundaise. Cette dernière, qualifiée de majoritairement Tutsi, combattait à l'époque les différents mouvements rebelles essentiellement Hutu, deux des trois composantes sociales du pays. Ce jeune homme affirme que ceux qui ont perdu les leurs doivent être indemnisés.
La guerre a amené beaucoup de choses malheureuses. Si vous allez voir les autorités, dites-leur de nous indemniser car nous avons perdu beaucoup de biens matériels et humains.
Tous les jours, pendant deux semaines, au moins 24 personnes ont fait leur déposition devant les agents de collecte installés sur toutes les collines de la province de Bouvanza. Pour cet homme Tutsi, père de 7 enfants, il ne voit pas l'importance d'aller témoigner.
Je figurais sur la liste des gens qui devaient être tués. Tous les autres 90 personnes avec lesquelles j'étais ont été massacrées. Je suis le seul survivant. J'ai quitté notre colline le soir à cause du froid, plein de sang. Je n'ai vu personne parmi les bourreaux. Quelle est cette personne à qui je peux pardonner, car c'était la nuit et il faisait très froid. Je vais témoigner quoi, devant qui? Je ne vois aucun intérêt d'aller faire ma déposition.
La commission Vérité et Réconciliation a du pain sur la planche. Cette maman Hutu, qui a perdu les siens en 94, se souvient de cette horrible époque et remercie les autorités si les personnes qui ont perdu les leurs vont être indemnisées.
J'ai passé deux nuits dans le sang alors que les autres avaient été tués au marché de Kizuka. J'ai vécu au Rwanda pendant 3 ans. Si on a quelque chose comme indemnisation, tant mieux, car à l'époque, j'ai tout perdu, même mon bétail. Les rebelles ont pris toutes les vaches, mais les personnes ont été tuées par l'armée gouvernementale.
Armée gouvernementale ou mouvements armés sont pointés du doigt par la population à l'époque pour avoir commis certaines atrocités innommables. Pour ce vieux octogénaire, la balle est dans le camp des politiques.
Cette maladie à connotation ethnique existe sous différents présidents. Sombero, Bagaza, Boyo, même aujourd'hui. Cette maladie vient des autorités politiques, elles seules. Que ces autorités nous enseignent à nous aimer fraternellement, qu'elles nous éduquent à la paix pour que nous, pauvres paysans, puissions vivre en paix.
Une de ces trois commissaires de la Commission Vérité et Réconciliation, Clotilde Bizimana, affirme que les Burundais viennent nombreux faire leurs dépositions dans le calme et la sérénité. Les dépositions qui ont commencé en avril 2017 sont conservées sous des fiches individuelles. Elles se termineront en mai prochain, juste à la veille du référendum du oui ou du non de la nouvelle constitution. Mais la CVR affirme qu'elle a seulement les moyens financiers pour les travaux de requête des dépositions pour 4 des 5 provinces restantes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura. VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des femmes issues de centrales syndicales ivoiriennes ont créé leur syndicat pour que les préoccupations des travailleurs soient prises en compte. 4000 femmes ont déjà adhéré au réseau des femmes syndicalistes de Côte d'Ivoire, présidé par Marietou Guéo, ex-secrétaire générale adjointe de l'UGTICI. Nathalie Barge a joint la marraine du réseau, Salimata Porke, une figure du féminisme en Afrique.
Cette organisation prend en compte les femmes aussi bien du milieu rural que du milieu urbain. Les femmes des marchés, les femmes cultivatrices, elles sont toutes membres de ce syndicat. On a choisi comme thème la couverture d'assurance maladie parce que en Côte d'Ivoire, il est mis en place une couverture assurance maladie, mais l'on pense que c'est pour un certain niveau. Alors donc qu'avec les femmes syndicalistes, les explications sont données à tout le monde et actuellement, elles sont en train de mettre des fédérations dans toutes les régions pour que les femmes soient informées et surtout comment défendre les droits des femmes du milieu rural en matière de possession des terres. Les femmes cultivent, mais en fait, elles ne sont pas propriétaires terriens. Et donc, comment est-ce que nous pouvons nous battre pour qu'une loi soit votée pour que les femmes puissent être propriétaires terriens? Et jusque-là, rien n'est encore fait. Avec ce syndicat, nous allons booster cela.
Alors, comment réagissent les autres syndicats?
Les hommes syndicalistes, eh bien, ils ont peur. Ils pensent que les femmes veulent faire de l'exclusion, leur arracher le pouvoir. En fait, non. Vous avez dû apprendre que dernièrement, en Côte d'Ivoire, il y a eu une crise entre les syndicats et le gouvernement. Pendant 3 mois, les syndicalistes de tous bords ont fait une grève. Et c'est nous qui avons réglé ce problème. Nous étions environ 5-6 et nous avons rencontré donc les différents groupes de syndicats. Et ensuite, j'ai abordé le chef de l'État qui se trouvait à une cérémonie. Je suis allée droit vers lui. Je lui ai dit, monsieur le président, je viens vous signifier que nous, les femmes, nous sommes auto-saisies du problème des syndicalistes. Il m'a dit, Salimata, tu es sûr que tu peux régler ce problème? J'ai dit, oui, monsieur le président. Et ensuite, il m'a ramené vers le premier ministre qui nous a reçus et nous sommes retournés vers les syndicalistes pour accepter de dialoguer avec le gouvernement. Et comme Marietou connaît bien le système des syndicalistes, elle connaît leurs règles, donc elle nous a mis la puce à l'oreille, qu'est-ce qu'il fallait aborder comme problème, comment il fallait les amener à la raison. Et ça marchait. Et finalement, les syndicalistes, leur président nous a demandé d'aller intervenir pour eux auprès du président de la République. Alors Marietou leur a demandé, vous mandatez la présidente ou bien qu'elle se lève d'elle-même? Ils disent non, nous la mandatons. Maman, nous vous mandatons d'aller vraiment faire le plaidoyer auprès du président de la République pour qu'on puisse trouver une solution. Et la solution a été trouvée, la grève s'est arrêtée.
C'était Salimata Porke, présidente de l'organisation panafricaine Plateforme d'éveil électoral des femmes et des jeunes, jointe à Abidjan.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Mali, on n'a pas fini de parler du débat sur le code des personnes et de la famille, des questions liées au renforcement du droit des femmes en matière d'héritage, d'éducation et d'emploi, notamment, continue d'animer les conversations. Des groupes musulmans du pays ont souvent marqué leur opposition au code de la famille, estimant qu'il va à l'encontre des valeurs traditionnelles et religieuses du Mali. Et pour en parler, John Lindon a joint au Mali deux dames, Ségou Kankou Sangaré, présidente du tribunal de Ségou, et Fatoumata Lala Diallo, juge à Koutiala, qui évoque tout d'abord les changements opérés dans l'actuel code de la famille.
Les changements et améliorations dans le nouveau code des personnes et des familles. Aujourd'hui au Mali, on peut citer le mariage, dans le cadre du mariage. Avant le mariage religieux, la célébration du mariage religieux était formellement interdite par l'ancien code. Et avec le nouveau code, maintenant, on peut célébrer le mariage avec délivrance de certificat de mariage. Bon, il y a la succession aussi, l'égalité entre hommes et femmes dans la succession.
Des groupes musulmans se sont quelquefois opposés au code de la famille, ce fut le cas en 2009. Estimant que le code va à l'encontre des valeurs traditionnelles et religieuses du Mali, est-ce que leurs positions ont changé?
Il serait difficile de mesurer les positions, mais en regard des constats qu'on peut faire tous les jours, on peut dire que les positions n'ont pas encore changé par rapport au code de la personne et de la famille. On constate une montée des extrémismes, pas seulement au Mali, mais partout dans le monde.
Est-ce que il y a un dialogue qui est entrepris pour convaincre les religieux de changer leur position?
La société civile s'est toujours bâtie pour pouvoir faire changer les choses. Et la société civile continue toujours de se battre. Même le gouvernement est en train de mener des actions. Dans la mesure où il y a eu la coopération entre le Maroc et le Mali sur la formation des imams. Et cela est important pour faire comprendre à tout le monde la religion.
La femme malienne de demain, vous la voyez comment? Moderne, traditionnelle ou un peu des deux?
Moi, je vois un mélange pour la femme malienne de demain, un côté traditionnel et un côté moderne. Le côté traditionnel, c'est l'éducation qui est toujours tirée sur le comportement des femmes. La femme continue d'être éduquée dans la plupart des cas, de manière à ce qu'elle puisse conserver l'essentiel des traditions.
Ségou Kankou Sangaré, présidente du tribunal de Ségou, et Fatoumata Lala Diallo, juge à Koutiala.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Joselle Morissin, à la console Voïtex Zorniak, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville,
sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.